Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. En cette semaine de Noël, une émission consacrée à la montagne magique pour nombre d'entre nous. Que nous apprend-elle sur nous et nos semblables? Pourquoi est-elle essentielle à ceux qui la chérissent? Pourquoi est-elle un objet de fascination inépuisable? De quelle façon exalte-t-elle le corps et l'esprit? Pourquoi tire-t-elle vers le haut ceux qui la pratiquent, au point d'intensifier leur spiritualité? Pourquoi nous inspire-t-elle de belles idées, nous rend-elle plus créatifs? Par quelle alchimie la joie et l'euphorie de la randonnée en montagne côtoient la lassitude, la douleur, l'épuisement et parfois le dégoût? Enfin, pourquoi provoque-t-elle chez certains vertige et appréhension? Comme le disait Gaston Rébuffa, les montagnes ne vivent que de l'amour des hommes. Et à titre personnel, je rends grâce au moniteur de la colonie de vacances, la Montagna, à Anvetsch, dans les Pyrénées, qui me donnèrent, il y a quelques décennies, le goût, le plaisir et l'amour exigeant de la montagne. Et vous, racontez-nous votre amour pour la montagne sur la page Facebook de l'émission. Pour m'accompagner ce matin, Guillemette Odissino, qui mettra son grain de sel dans cette conversation et qui nous conseillera un film de Wes Anderson. Et puis notre chef Grégory Cohen vous proposera une recette qui vous donnera l'impression de déjeuner ou de dîner dans un chalet de montagne, crozé au Beaufort et noix de jambon fumée. Je ne vous dis que ça. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Ce que c'est haut, merde ! Ce que c'est haut ! Oh, les cons avec leurs montagnes !
Voilà le sommet ! Youhou ! Ce que c'est beau ! Youhou ! On sent les rois du monde !
Non, j'en peux plus, merde ! Où ils sont, ces connards ? Et dire que c'est moi qui leur porte leur casse-dalle, en plus ! Je suis vraiment le roi des cons ! Que c'est haut, putain!
T'as qu'à boire moins de bière.
Voilà, le casse-croûte, il est lourd, hein!
Je ne vous ai pas compté dans le casse-croûte, Michou. Je me suis dit qu'après votre indigestion d'hier soir, une petite diète vous ferait du bien.
Ah oui, une petite diète?
Oui, une petite diète.
T'as même pas regardé le paysage. T'as vu comme c'est beau?
Mais qu'est-ce qui te prend, Michou?
Rien, rien.
Tu pleures?
Non, non, ça va passer.
C'est la diète qui te fait pleurer?
Non, non, c'est le paysage. Ça me fait penser à la femme de mon frère. Faut que j'aille la voir.
Extrait de la crise de Colline Serrault. Bonjour Étienne Klein. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes physicien, docteur en philosophie des sciences, producteur de l'émission La Conversation Scientifique sur France Culture le samedi à 16h. Et vous venez de publier chez Artaud Psychisme Ascensionnel dans la collection Versant Intime. Bonjour Antoine Debac, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à l'École Normale Supérieure et vous avez notamment publié Ma Transhumance chez Artaud. Étienne Klein, 1978, c'est une année fondamentale pour vous. C'est l'année de vos 20 ans et l'année où vous tombez fou amoureux de la montagne. Vous effectuez à cet âge un grand tour du Mont Blanc.
Oui, c'était après le passage des concours aux grandes écoles scientifiques. J'étais un peu fatigué et mes parents m'avaient offert ce stage. Et la montagne, qui jusqu'alors était pour moi simplement nimbée de littérature, j'avais lu beaucoup d'ouvrages, mais je ne l'avais jamais vraiment vue. Et en débarquant à Chamonix... un matin de juillet, en effet, j'ai tout de suite compris, de façon presque instinctive, que c'était mon topos. C'est l'endroit où j'allais me sentir le mieux, finalement, alors que rien dans mon histoire personnelle ne me prédisposait à fréquenter ces cimes.
Jamais vous n'aviez vu de telles splendeurs, l'aiguille verte, les drues, l'aiguille du midi.
En effet, et c'est encore plus beau quand on est en haut de la vallée, on voit ces splendeurs en effet, mais elles changent de perspective, d'apparence, de signification presque, dès qu'on s'élève.
Qu'est-ce que vous ressentez à la vue des presque 4000 et de leurs neiges éternelles?
Le titre du livre « Psychisme ascensionnel », c'est une expression que j'ai empruntée à Gaston Bachelard, dans son livre « L'air et les songes ». Ce qu'il appelle le psychisme ascensionnel, c'est simplement le sens de la montée. C'est le fait de sentir une aspiration verticale qui est inspirée par les cimes elles-mêmes, l'envie de grimper, une sorte d'envie irrépressible qui fait qu'on se sent mieux en montée qu'en descente, par exemple. Et ça, je l'ai ressenti à partir de mes 20 ans. Et ce psychisme continue de m'habiter. Et j'espère que ça va durer, parce qu'avec l'âge, évidemment, il y a... des forces gravitationnelles nouvelles qui semblent s'imposer.
Antoine Debacq, vous la ressentez, cette aspiration, par le mouvement vertical des cimes, ce que Bachelard appelle donc le psychisme ascensionnel?
Oui, j'ai ressenti ça, je dirais presque jusqu'au vertige, et c'est quelque chose qui, moi, m'a fait peur. J'ai vers à peu près au même âge, hein, vers 20 ans, et je crois qu'on est à peu près de la même génération. Moi, c'était dans une autre montagne. C'était une autre montagne un peu mythique, un peu légendaire. C'est le Vercors, avec des grandes falaises très, très verticales, comme ça. J'ai commencé à grimper avec des amis de mon âge, notamment le Mont Aiguille. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très fort, et en même temps de... Moi, ça m'a effrayé, hein. Il y a un côté comme ça, mais c'est le propre de la montagne. Et je suis plus allé vers la marche, hein, vers la randonnée. Moi, mon psychisme est plus un psychisme de col, hein, c'est-à-dire la découverte d'un paysage, d'une nouvelle vallée à partir d'un col, et moins de la paroi, du sommet. J'ai plus le fantasme du col, du passage, que de l'ascension proprement dit. C'est plus excursionniste qu'ascensionniste, pour reprendre les mots des premiers qui ont compris et qui ont décrit aussi cette passion pour la montagne au milieu fin du 19e siècle.
Étienne Klein, vous avez été excursionniste, randonneur avant d'être grimpeur, avant d'être alpiniste.
Oui, parce que quand je voyais des alpinistes descendre du Mont Blanc, par exemple, au bas du glacier des Bossons, j'avais l'impression que c'était des post-humains. Enfin, ils avaient l'air très spéciaux, et ils avaient l'air, pour certains d'entre eux, en tout cas, je me souviens d'une cordée polonaise, ils avaient l'air complètement hagards. Et il y avait une paroi de verre qui me séparait de cette activité. Et il m'a fallu en effet 10 ans pour passer de l'excursionnisme, la randonnée, les grands GR des Alpes ou de Corse, pour franchir le pas et passer à l'alpinisme.
Antoine Debacq parlait de d'effroi. Face à l'immensité des sommets, certains peuvent se sentir oppressés, écrasés, aspirés.
Oui,
vous comprenez cette
oui,
peur?
Oui, absolument. J'ai vu des gens, en effet, complètement paniquer ou se sentir mal, faire des sortes de malaise physique, hein, dont l'origine était plutôt psychologique que vraiment organique. Mais moi, c'est l'inverse. Mais je dois préciser que moi, je pars jamais seul en montagne. Sauf pour des randonnées, mais quand c'est de l'alpinisme, je suis accompagné par un ami guide que je connais depuis très longtemps, et il y a un sentiment de sécurité qui fait que même suspendu dans le vide, je me sens parfaitement en sécurité, parfaitement bien. Et si j'étais seul, évidemment, ça serait une très grande panique.
Comprenez-vous pourquoi la montagne vous met en joie? Vous le dites dans votre livre, vous y ressentez plus de joie qu'ailleurs.
Écoutez, le titre de la collection d'Artaud qui a publié ce livre, c'est « Versant intime ». Et l'anagramme de versant intime, c'est sentiment vrai. Et ben voilà, c'est tout simple. La montagne déclenche des sentiments dont on peut dire à coup presque sûr qu'ils sont vrais. Il n'y a pas de mensonge. Je pense que l'alpinisme, ça fait tomber le masque. Hein. Je dis ça en période d'épidémie, je devrais pas, mais c'est une espèce de simplicité comportementale qui traduit finalement de façon assez directe et spontanée qui nous sommes.
Antoine Debacq, quelle est la nature de la joie que vous ressentez lorsque vous randonnez, lorsque vous marchez en montagne?
Alors, elle est d'un double ordre. Il y a quelque chose de l'enfance. C'est aussi parce que moi, j'ai découvert la montagne à l'enfance, à l'adolescence, quand mes parents ont acheté une maison, donc dans le Vercors, à Grèce en Vercors, sous les falaises. Mais assez vite, j'ai commencé à marcher avec ma famille, avec des amis, et j'ai pris aussi des notes sur ces premières randonnées. J'ai retrouvé des notes de ma vie randonnée, comme j'appelle, vers 13-14 ans, comme ça. Donc c'est ça qui, c'est une sorte de trésor d'enfance, d'adolescence. Et dès que je suis en montagne, près de 50 ans ou 45 ans plus tard, je ressens quelque chose qui me ramène à l'enfance, comme une sorte de retour vers l'enfance. Et c'est quelque chose qui a à voir avec une forme de nostalgie, d'envie de se replonger dans des souvenirs, dans des sensations qui un peu à la Madeleine de Proust, hein, qui vous ramène à des gestes, à des habitudes, à des émotions ressenties dans l'enfance. Et puis l'autre sentiment, c'est l'aspect sauvage, c'est l'aspect de perte, de fuite, hors du monde dans lequel je vis, qui est un monde urbain, un monde organisé, un monde, je dirais, plutôt clos, un monde du dedans. Moi, je suis un homme du dedans, je travaille en bibliothèque, je travaille dans les amphis, dans les salles de cinéma, et tout d'un coup la montagne, c'est évidemment une sorte de grand dehors, d'extériorité, et qui en même temps est un extérieur qui a à voir avec une vie sauvage, une vie totalement autre, qui révèle en vous quelque chose de, je dirais, de l'ordre d'une forme de survie. Voilà, la montagne avec son exigence, ses difficultés, ça met en valeur, ça met en saillie presque quelque chose qui est de l'ordre de l'animal, qui doit retrouver une manière de vivre et de survivre dans un monde sauvage, quoi. Et donc c'est ce double sentiment d'enfance et de sauvagerie qui pour moi est vraiment intimement lié à la montagne.
Guillemette Todisino, bonjour.
Bonjour Ali.
Journaliste à Télérama et chroniqueuse dans l'émission.
Ça me fait réagir en fait à la fois ce que Étienne Klein disait sur la notion de que la montagne vous pousse à tomber le masque, et donc en ce moment c'est d'actualité ou pas justement, et ce que disait Antoine sur ce grand extérieur. Mais est-ce que la montagne c'est pas aussi fascinant parce que c'est à la fois un déconfinement et un confinement?
Étienne Klein.
Mais moi, je dirais que c'est très bien dit, cette sorte de paradoxe, parce que dans les passages difficiles, il y a une sorte de centration de l'attention dans un petit volume d'espace-temps. On est dans le présent, le passé ne compte plus, le futur n'est même pas envisagé. Il y a une centration, une concentration tout à fait spectaculaire. Et puis au contraire, quand on est dans des passages plus faciles, ou quand on descend, on redescend, disons, ben l'esprit se dilate et perçoit de l'espace-temps des volumes beaucoup plus importants. Donc il y a à la fois, en effet, une espèce de confinement. Il y a une très, très belle phrase d'Antonin Artaud qui dit « Quand on escalade, l'esprit devient mince comme une main ». Donc il y a une espèce de rapetissement du corps dans une de ces parties essentielles, la main en l'occurrence, ou les pieds. Et puis après, au contraire, on se dilate.
On va évoquer ce matin la fraternité de la cordée, mais vous évoquez également le fait que la montagne, c'est aussi le lieu des psychodrames, un implacable révélateur de la psyché humaine. Racontez-nous, tiens, ce périple en Corse en 1986 sur le fameux GR20.
Oui, bah c'est
et qui peut peut-être rappeler le film Les Randonneurs de Philippe Harel.
Oui, c'est ça, c'est une aventure, parce que tous les ans j'emmenais des amis en randonnée sur les grands GR dont j'ai parlé tout à l'heure, et en Corse en effet, sur le fameux GR20, dans un passage un peu vertigineux qui s'appelle le cirque de la solitude, il y a eu des psychodrames, des gens qui avaient le vertige, et il a fallu faire des grands détours pour éviter ce passage qui pour eux était la figuration de l'enfer. Bon, et c'est alors que jusqu'alors, en effet, ça s'était toujours très très bien passé. Il y avait des amitiés très fortes et même des mariages qui s'étaient constitués grâce à ces randonnées annuelles. Là, je me suis dit bon, je vais passer à l'alpinisme et on essaiera de vivre des choses plus intenses et plus peut-être moins conflictuelles. Parce que moi, j'ai jamais vu de cordée conflictuelle. Dans la cordée, il y a une espèce de... Il y a ce qu'on appelle l'esprit de cordée, il y a une forme de responsabilité partagée qui fait que certains comportements sont implicitement interdits par le fait que la cordée, en quelque sorte, transcende les individus qui la composent.
Antoine Debacq, vous avez connu en randonnée, en montagne, cet implacable révélateur de la psyché humaine que peut être ce lieu?
Oui, je pense que c'est vrai que les conditions extrêmes que peut imposer la montagne, voilà, sont une forme de révélation de vérité profonde, qui peuvent être aussi bien des manières d'aller vers l'autre que des manières de tout d'un coup de se retrouver différent de l'autre et de le repousser. Oui, j'ai vécu ces choses-là. Même si c'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi une caractéristique pour moi de la montagne, c'est la solitude. Mmh. Alors, et je comprends très bien ce que dit Étienne Klein sur sur l'alpinisme. Enfin, très peu de gens font de l'alpinisme seul. Mais la randonnée, par contre, pour moi, est vraiment un plaisir solitaire et aussi une épreuve solitaire. Et donc, ce que moi j'ai pu faire comme expérience de la peur, de révélation de moi-même, c'est quelque chose d'assez régulier quand on randonne seul en montagne. C'est la perte, c'est se perdre en montagne. Et donc, moi, on se sent très démuni. Le moindre écart, la moindre petite chute peut devenir un véritable drame. Je crois qu'il y a plus de morts actuellement, ou depuis toujours d'ailleurs, en randonnée qu'en alpinisme. Hein. En France, il y a un nombre supérieur de morts en randonnée qu'en alpinisme, parce que justement, on se sent en sécurité en alpinisme, en randonnée, alors que précisément les écarts de la montagne sont quand même omniprésents, quoi. Et donc c'est vrai que marcher en montagne, c'est passer sans cesse de ce sentiment de une forme de plénitude où rien ne peut vous arriver, au contraire à se sentir tout petit par rapport à des éléments qui peuvent se déchaîner ou à des écueils de la montagne sur lesquels on bute.
Étienne Klein, vous écrivez que la montagne vous procure un confort existentiel.
Oui, c'est-à-dire que durant l'année, moi je vis à Paris, le fait de savoir à l'avance que je ferai pendant l'été tel ou tel sommet, ou que je courrai l'ultra-trail en espérant être tiré au sort après l'inscription, parce que maintenant il faut être tiré au sort.
L'ultra-trail, c'est la course de fond en montagne.
Oui, qui se court en fin du mois d'août à Chamonix, enfin autour du Mont-Blanc. Le fait de savoir ça à l'avance, ça densifie mon rapport à l'existence et ça lui donne en effet une sorte de confort.
J'aimerais que vous m'éclairiez, Étienne Klein, sur une phrase dans votre livre. Que voulez-vous dire quand vous parlez de l'enjeu libidinal de la montagne? Ces montagnes qui aimantent votre regard.
Mais c'est le fait qu'une fois qu'on a fait une sorte de fixette sur un sommet, eh bien on est obligé d'y aller. C'est-à-dire que le sommet agit de façon presque magnétique comme une force antigravitationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une invitation à y aller qui devient irrépressible. C'est une sorte de désir profond qui fait que on ne pourra s'en débarrasser qu'en escaladant cette montagne. C'est-à-dire que je cite aussi un livre absolument incroyable qui s'appelle Le Mont Analogue, qui a été écrit par René Daumal pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un livre inachevé qui raconte l'histoire d'une cordée qui vise un sommet invisible. Et dans ce livre, il explique que, en fait, escalader une montagne, c'est la faire descendre. C'est-à-dire que avant qu'elle soit conquise, elle appartient au domaine des dieux, elle n'est pas vraiment humaine, elle n'est pas terrestre. Et le fait de l'escalader la rend humaine, terrestre, et donc la fait symboliquement descendre. Et je pense que c'est une idée tout à fait vrai, et on ne regarde plus un sommet de la même façon avant et après l'avoir escaladé.
Antoine Debac.
Moi, j'ai un rapport à la montagne qui donc passe plus par l'école, où au contraire, je trouve que l'amour et le désir que on peut trouver dans un col, c'est plutôt d'y passer, et je dirais même d'y repasser. C'est donc par une forme de à la fois de familiarité et de retour à qui, moi, conforte cet aspect presque libidinal, effectivement, de considérer la montagne comme le corps d'une femme, et le passage au col comme une caresse ou une recaresse, voilà. Et donc, retrouver un lieu, retrouver un sentier, retrouver un corps, c'est là où, moi, se niche mon plaisir, mon désir. Ça dit sûrement quelque chose de très profond sur ma libido. Et du coup, j'ai pas ce côté collectionniste un peu que peuvent avoir un certain nombre de grands alpinistes, hein, qui, voilà, veulent accumuler les conquêtes pour reprendre ce registre de la libido. Alors que moi, je circonscris mon terrain à quelque chose qui est peut-être beaucoup plus étroit, et c'est vrai que je ne marche par exemple quasiment que dans les Alpes. Si je marche dans les Pyrénées, ce qui peut m'arriver par exemple, j'ai l'impression de faire une infidélité à ma montagne.
Guillemette Odissino.
Ah non, mais je suis fascinée, là. Si on réécoutait chaque mot prononcé par ces deux messieurs, mais effectivement, il y a vraiment un rapport très érotique à la montagne, et avec différentes manières de séduire, d'être fidèle, de revenir au même endroit. Je trouve ça génial. Enfin, messieurs, vous êtes bourrés de métaphores et de symboles fascinants. Mais justement, en plus, on dit souvent que certains territoires en montagne sont vierges. Est-ce que ça existe un livre qui a vraiment approfondi ce rapport quasiment de séduction avec la montagne, quoi? Il y a quelque chose de très amoureux dans tout ce que vous dites. C'est très beau.
Étienne Klein.
Alors, je crois que les montagnes qui s'appelaient demoiselles ont changé de nom. Elles sont appelées des dames après avoir été escaladées pour la première fois. Moi, je comprends très bien ce que dit Antoine à propos des cols. Je pense que la perspective d'un col qu'on est en train de gravir, c'est à peu près la même que celle d'un sommet. Il y a un sentiment quand on le franchit, à la fois d'accomplissement et puis de changement de monde, parce qu'on a une nouvelle vision du paysage, on a un nouveau rapport à la montagne. Et ce qu'il dit aussi sur le fait qu'il revient souvent aux mêmes endroits, je comprends aussi, puisque moi je m'entraîne, j'ai des espèces de randonnées d'entraînement que je fais avec le même plaisir à chaque fois. Ce sont des sortes de prières laïques. Et si j'en faisais d'autres, en effet, j'aurais le sentiment d'être un traître à cette forme d'habitude.
Allez, racontez-nous le rapport que vous entretenez avec la montagne sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Manon Cancé. À la technique ce matin, Serge Viguier. À la réalisation, Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter Marie Laforêt, un titre de circonstance.
Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. La montagne, là-haut il fait si bon. Pourquoi ces pleurs dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Laisse ici ton amour malheureux. Viens avec moi, viens. Viens, ma maison n'est pas loin. Tout s'oublie, je suis là, prends ma main. Viens, viens sur la montagne, là-haut. Viens avec moi, viens. Si tu veux bien, prends ma main. Laisse-moi, je connais le chemin. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon.
Marie Laforêt interprétée vient sur la montagne.
Ma femme est en proie à d'intenses crises de nymphomanie.
Grand bien vous fasse.
J'ai pensé que les Pyrénées étaient la destination idéale pour mettre Aurore à l'abri de toutes ces tentations.
Ali Rébéi.
Eh bien pour moi, les Pyrénées sont synonymes de virilité, de sauvagerie et de mystère.
Sur France Inter.
Ce que la montagne raconte de nous, eh bien, c'est notre thème ce matin en compagnie du physicien et philosophe des sciences Étienne Klein et avec l'historien Antoine Debacque. Je vous propose d'écouter l'architecte et designeuse Charlotte Perrian.
J'allais en Savoie, car mon père était savoyard. Et on regardait l'horizon, et dans l'horizon, on voyait les belles montagnes neigeuses. Et pour moi, ces montagnes neigeuses, c'était la Chine. C'était au moins la Chine. la chose inaccessible si, et en même temps ma convoitise, puisque c'était inaccessible. Et je me suis empressé d'y aller dès que j'ai eu mes 18 ans. Et ça a, on peut dire, marqué absolument toute mon existence. Ça me paraît être un équilibre, presque une règle de vie, c'est-à-dire l'équilibre entre le corps et l'esprit. Parce qu'en montagne, il n'y a que les derniers 10 mètres qui comptent, et au fond, ce sont les plus difficiles. Donc, comme discipline de vie, comme éthique, c'est très important. Et je pense que cette conquête de la montagne a eu beaucoup d'influence sur mon comportement dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire, quand les choses sont difficiles, je ne les abandonne pas, je serre les dents, et puis je continue jusqu'à ce que j'arrive au bout, même si c'est extrêmement pénible.
Extrait du documentaire Charlotte Perriand, pionnière de l'art de vivre, diffusé sur Arte en 2019. Commentaire Étienne Klein, Antoine Debac.
Étienne Klein. Je comprends ça parfaitement. Ça devient en effet une sorte d'éthique de vie qui s'imprègne d'un rapport au corps. On comprend notamment quand on fait de la montagne ou bien de l'ultra-trail par exemple, que si la douleur est optionnelle, la souffrance est facultative. On n'est pas obligé de convertir une douleur physique en une souffrance morale. C'est la grande phrase de Murakami, qui était par ailleurs un coureur de fond. Et il y a toutes sortes de leçons qui viennent du fait qu'on constate en montagne qu'on ne sait pas dire à l'avance ce que peut le corps.
Antoine Debac.
Moi, oui, j'entends tout à fait ce que disait Charlotte Perriand. Aussi sur l'expérience que la montagne vous apporte, ça constitue une sorte de savoir qui ensuite, dans son cas, se transcrivait dans son travail. C'est vrai que quand on voit ou on vit même dans les appartements, les immeubles qu'elle a conçus notamment aux Arcs, on comprend ça. Il y a quelque chose qui, de l'expérience de la montagne, qui se transcrit dans le savoir, dans des techniques, je dirais, de vie et de travail, qui sont des choses qui, moi, m'ont toujours assez fasciné, comment, à partir d'une marche en montagne, on peut en tirer en quelque sorte des leçons pour vivre ailleurs que dans la montagne, pour vivre, et notamment des leçons professionnelles, ouais, c'est sûr.
Marc nous écrit sur notre page Facebook « La randonnée euphorise, provoque des émotions et aide à dépasser ses peurs. Grimper exalte, redescendre abîme les genoux. La montagne, ça se mérite corps et âme, Étienne Klein ?»
Bon, corps et âme, c'est une expression un peu forte. Hein. Ça se mérite, ça demande toujours un effort. C'est-à-dire que, comme le dit Bachelard, rares sont ceux qui dorment en grimpant. Ça demande un effort, une attention, une concentration. Ça demande aussi de ne pas s'alerter dès que les premiers signaux de fatigue ou de douleur apparaissent. Il faut une sorte de ténacité. Il faut que l'objectif qu'on se donne soit plus important que tous les petits aléas de l'approche, par exemple. Mais je ne la réduirai pas à cette dimension de l'effort. Je pense qu'il y a tellement de plaisir, même dans l'ultra-trail, qui est quand même une aventure qui est en cours, on marche pendant des dizaines d'heures sans dormir. Et en fait, on se rend compte que la fatigue, elle n'est pas obligée de s'accroître. C'est-à-dire, on peut continuer, ou même la douleur, on peut avoir mal ou être fatigué parce qu'on a fait un certain type d'effort. Et en continuant cet effort, eh bien, la fatigue peut disparaître. On peut retrouver une forme de pétulance. Et donc, c'est l'idée que l'état du présent n'est pas indicateur de l'état du futur. Et il faut laisser les choses se faire, attendre, de voir comment ça se passe pour déterminer ce qui a réellement lieu.
Un ami qui n'aime pas la montagne me disait qu'il n'aimait pas la pratique de la randonnée ou de l'alpinisme parce qu'elle était liée, cette pratique, à une certaine forme de dolorisme. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je comprends que cette chose soit dite. Je l'ai beaucoup entendu chez des amis proches, mais je ne la vis pas de cette façon. C'est plutôt l'inverse. Je pense qu'il faut être complètement maso pour ne jamais aller en montagne.
Pourquoi ?
Parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est là que on se sent à la fois libre, complètement libre et responsable. Quand on est dans l'ultra-trail, par exemple, il y a énormément de contraintes. La montagne, c'est énormément de contraintes physiques, météorologiques, la température, par exemple, qui s'impose à vous. Et en même temps, vous vous sentez libre parce que vous êtes responsable de vous-même.
Guillemette Odissino.
Oui, oui, mais c'est, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'essayais de comparer à ce qu'on peut éprouver en se baladant en forêt, des choses comme ça. Mais c'est vrai quand même, cette notion du risque et du beaucoup plus grand que soi, cette notion d'ascension et éventuellement de risque de chute, ça donne une vision de la nature environnante qui est beaucoup plus majestueuse, qui est beaucoup plus, comment dire, perpétuelle et absolue peut-être que n'importe quel autre décor, non?
Oui, c'est-à-dire qu'on peut... C'est toujours le même paradoxe, la montagne ça nous écrase, on est tout petit par rapport à elle, et en même temps, quand on est au sommet d'une montagne ou bien sur un col, simplement, on a l'impression d'accéder à une contemplation monarchique du monde. Donc ça donne un sentiment à la fois d'écrasement et de puissance. Et c'est toujours ces mélanges qui font que la montagne est un lieu de paradoxe et qui est vivifiant en fait.
Étienne Klein, la montagne est un révélateur de son identité. Vous parlez hein, d'ailleurs de mise à l'épreuve de l'identité personnelle. Vous diriez que la grande majorité des humains qui n'ont pas pratiqué la montagne n'ont qu'une connaissance limitée d'eux-mêmes?
Ah non, pas du tout. Moi, je pense que ça l'a été pour mon cas, pour d'autres personnes que je connais, mais j'en fais pas du tout une loi générale. Il y a des gens qui n'ont pas fréquenté la montagne et qui se connaissent peut-être beaucoup mieux que intimement. Que les alpinistes, mais en tout cas chez moi ça a été une rencontre qui a coupé mon histoire en deux.
Antoine Debacq, c'est pareil pour vous, un avant et un après?
Oui, oui, ça, en tout cas ça détermine des moments de vie, je pense que ça c'est très important. Il y a une vie avec la montagne, il y a une vie sans, il y a une vie après la montagne, qui est avec la montagne mais différemment, on n'est pas dans la montagne et on transporte sa montagne entre guillemets avec soi dans une autre vie, mais en tout cas ça, c'est vrai que c'est et la montagne a ce pouvoir de donner le rythme ou donner la temporalité à votre existence. Moi, je sais que voilà, le retourner à la montagne, puisque c'est plutôt comme ça que ça se passe pratiquement pour moi, vivant aussi à Paris, dans la ville, j'ai besoin d'y retourner. J'ai besoin aussi d'organiser ce retour. C'est vraiment un plaisir qui commence à l'intérieur de la ville où on pense à la montagne, où notamment on organise aussi ces randonnées en réservant ses nuits dans les refuges, en faisant son parcours sur la carte. Il y a une sorte de montagne comme ça imaginaire, une montagne fantasmée très concrètement qui est très présente et qui refait votre existence. En fait, elle se conforme, elle se refaçonne en fonction de vos désirs de montagne. C'est vrai que c'est quelque chose de très présent et qui en fait du coup, je dirais peut-être, alors pour certains, pas pour tout le monde, hein, évidemment, d'autres ont d'autres passions. Je veux dire, voilà, la pêche c'est aussi quelque chose qui est une passion qui finit par donner son sens à votre existence. Moi, je sais que sans la montagne, mon existence, elle n'aurait plus de sens.
Étienne Klein, la montagne peut nous rendre créatifs ou carrément génial. Comment expliquez-vous que certains pères fondateurs de la physique quantique aient pratiqué l'alpinisme dans les années 1920-1930? Est-ce un pur hasard?
Alors voilà, c'est la question. Tous les pères fondateurs de la physique quantique ont pratiqué l'alpinisme, parfois de façon extrême. Paul Dirac, celui qui a découvert l'antimatière, a escaladé le mont Elbrouz en 1936. Heisenberg, Fermi faisaient beaucoup de randonnées, même d'alpinisme. Il y a une exception qui est Paoli, Wolfgang Paoli qui avait du diabète, et puis Majorana.
Ça lui refait du bien.
Voilà, Majorana qui fumait comme un pompier. Et alors la question c'est, est-ce que c'était la mode à l'époque? Est-ce que c'est leur milieu social qui les poussait à aller en montagne? Ou est-ce qu'au contraire, l'attraction pour les arêtes effilées, pour la haute montagne, a à voir avec l'amour des concepts que peuvent avoir les physiciens théoriciens? C'est une question ouverte.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour, Ali.
Vous partagerez tout à l'heure une recette de cuisine en fin d'émission, mais je sais que vous êtes un montagnard, un amoureux des Alpes.
Moi, je suis né, alors il y a plusieurs types de montagnes. Là, moi, je vais parler plutôt de la montagne enneigée, celle qu'on va laisser descendre rapidement sur deux planches qu'on appelle des skis, ou alors sur une planche, maintenant, c'est un surf. Moi, je suis plutôt à l'ancienne, encore sur des skis. Et je crois même que j'ai appris à glisser avant de marcher. Et mais je partage complètement l'avis de vos invités. En fait, il y a un côté vachement inspirationnel, je trouve, avec la montagne, presque un côté initiatique où on a envie de s'élever le plus haut possible, essayer d'atteindre cet inaccessible endroit. à l'époque, on se rappelle des dieux de l'Olympe qui étaient sur le mont Olympe, les dieux grecs, un des premiers alpinistes, Moïse, qui a escaladé le mont Sinaï. Donc il y a quand même ce côté-là qui fait que on se transcende, et puis physiquement, à l'intérieur de nous, le fait que on a un sang qui est chargé beaucoup plus en oxygène aussi, fait que on a une espèce de lucidité ou de clairvoyance, je trouve, qui à nulle part n'a son pareil.
Alors, je ne sais pas si inspirationnel existe, mon cher Grégory, en tout cas, ça rime avec ascensionnel. Hein. Est-ce que la montagne a exacerbé chez vous, Étienne Klein, Antoine de Bac, une certaine forme de spiritualité? Est-ce que vous ressentez ce que Romain Rolland appelait le sentiment océanique, cette impression d'appartenir à un grand tout? Je m'adresse au physicien Étienne Klein.
Je suis pas sûr de pouvoir dire ça. Ça, c'est pas le mot spiritualité. C'est plutôt l'idée que on fait une sorte d'expérience avec soi-même, en connexion avec le monde. Alors, je sais pas si on pourrait dire que c'est spirituel, sans doute que oui. Mais par exemple, la nuit, marcher la nuit, voir le ciel étoilé comme on ne le voit pas en ville, un ciel noir ponctué de points très très lumineux, voir la Voie lactée dans son intensité à 4000 mètres, évidemment, ça relie au cosmos. Et d'autant plus fortement qu'aujourd'hui, comme vous le savez, beaucoup de gens n'ont pas accès à la Voie lactée parce que la pollution lumineuse empêche qu'elle soit distinguable dans les grandes villes. Donc oui, voir la Voie lactée en montagne, c'est quelque chose évidemment de à la fois de métaphysique, de philosophique et de spirituel, ce qui fait quand même beaucoup en même temps.
Antoine de Bac.
Alors moi, j'ai pas le fantasme de la croyance, disons, du grand créateur qui ferait que devant la montagne, devant la beauté du spectacle de la montagne, mon esprit s'élève vers celui qui a créé tout cela et qui voilà, moi j'ai plutôt un sentiment très fort de matérialité, voilà, d'être devant un monde qui est plus grand que moi, ça c'est évident, et qui me renvoie à quelque chose qui est bon, très sûrement très très intérieur. Et c'est vrai que marcher en montagne, c'est replonger en soi beaucoup, c'est passé par quelque chose de très intime. Donc c'est ce lien en fait entre l'intimité la plus profonde et le monde qui s'affiche devant moi comme une sorte de tableau comme ça très concret et qui m'écrase ou qui m'élève au sens où voilà, tout d'un coup j'ai l'impression d'être au-dessus du monde qui c'est ce contraste qui me renvoie à des sensations, à des sentiments. Mais je ne sais pas si moi, j'appellerais pas ça de la spiritualité. Mais bon, je peux comprendre absolument. Mais c'est vrai que c'est plutôt le sentiment d'être dominé par quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est plus fort que vous, en fait. Et ça, c'est un sentiment qui vous replace à votre petite place, en fait.
Guillemette Audicino, et si on regardait un film de Wes Anderson au coin du feu avec un plaid dans un décor de chalet de montagne, une tasse de chocolat épais à la main, tiens. Guillemette, et si on regardait Grand Budapest Hotel, sorti en 2013?
Mais oui, de Wes Anderson, parce que vous avez beaucoup parlé de montagne, mais moi, quand on me dit montagne, je pense à neige aussi, je pense à la blancheur, je pense à la pureté, je pense à une certaine vision aussi, pourquoi pas de l'Europe, et c'est exactement ce que développe Wes Anderson. Alors, j'avais envie d'une montagne de chantilly, vous voyez, divinement fouettée, mais qui, en fait, loin de cacher une écœurante meringue, recèle vraiment des trésors d'humanité, des gouffres de sensibilité. Alors, Wes Anderson, c'est un styliste à nul autre pareil. On le sait, impossible de ne pas reconnaître à la première image, et même souvent à son affiche, un film de ce cinéaste dandy, qui a d'ailleurs choisi d'habiter Paris, et qui confectionne de luxueux récits, gigognes, à la manière d'un collectionneur fou, où chaque objet, chaque décor emplit l'image, et puis après, hop, disparaît, et laisse la place à d'autres objets encore plus époustouflants. Alors là, avec The Grand Budapest Hotel, il était une fois l'histoire d'un palace alpin. Alors, très rose, mais sur fond de neige, alors évidemment artificielle, puisque nous sommes dans un film hollywoodien de collectionneurs dingues. Et ce palace est situé dans une république européenne d'opérette des années 30, qui s'appelle Zubrovska, comme la vodka. Parce qu'à la montagne aussi, il faut quand même savoir se réchauffer. Bien. Et cet hôtel sera le départ, mais aussi l'arrivée, à travers beaucoup de labyrinthes du temps, de l'odyssée de son concierge, star, monsieur Gustave H. Alors, mais formidable Ralph Yeness, hein, formidable, qui est un dandy magnifique, un peu gigolo sur les bords, et très bien élevé, et de son protégé, un groom débutant, qui s'appelle Zéro Mustapha, et tous deux vont être confrontés à une histoire d'héritage rocambolesque, et surtout à la montée du fascisme. Alors, dans ce film, mais Ali, mais l'invention est constante. Il y a de l'espièglerie, du burlesque, le rythme est véritablement endiablé. Il y a des courses-poursuites à ski, à traîneau, ça se succède, mais comme dans un film d'animation, en fait, aux couleurs divinement acidulées, ou soudain d'un sépia beaucoup plus mélancolique, et dans une avalanche vertigineuse de décors, de meubles, de costumes, de bagages, de tableaux, de gâteaux aussi, ça fera plaisir à Grégory Cohen. Mais ce qui compte, en fait, dans ce film, qui rend donc hommage à la belle et vieille Europe de Stefan Zweig, et ce film qui sert vraiment le cœur, c'est que l'important, c'est vivre, envers et contre tout, contre la barbarie, contre la violence, contre la vulgarité, et rester finalement un artiste tout court, ou au moins un artiste de sa propre vie. Parce que Monsieur Gustave veut croire mordicus au pouvoir enchanteur des bonnes manières. La politesse, pour lui, c'est une forme de morale. À un moment, il est dans une prison, au milieu d'une bande de prisonniers patibulaires qui en veulent à sa peau. Et en fait, parce qu'il met une simple pincée de sel dans leur soupe, il va s'en faire des copains. Et même en tôle, il essaye de maintenir un certain standing, même s'il est privé de son autre colonne favorite, dont le nom est un acte de foi en soi. Elle s'appelle Air de Panache.
Etienne Klein. Alors,
oui, bah, j'ai vu ce film. L'important, c'est vivre, dites-vous, mais c'est même mieux que vivre, c'est exister. Dans exister, il y a ex, comme dans exclamation. Et la montagne permet d'exister, c'est-à-dire de sortir de soi et de constater que, étant sorti de soi, on y est encore. Autrement dit, les limites de soi ne sont pas là où on pense, mais elles sont presque indéfinies. Et on peut passer une vie à tenter de les distinguer.
Guillemette?
Ah oui, non, mais je suis absolument d'accord. C'est vraiment, c'est en fait un film qui a l'air comme ça d'être une maison de poupée où tout le monde gigote dans tous les sens. Avec, en plus, j'ai oublié de vous le dire, un casting absolument, mais incroyable. Mais effectivement, c'est ça. C'est comment trouver l'essence de son existence envers et contre tout. C'est vraiment un film. Vous savez, votre émission, elle peut être magnifiquement synthétisée en GBVF. Moi, ce film-là, c'est TGBH. Et ben, TGBH, c'est vraiment un élixir d'existence.
Grande Budapest Hotel à regarder pendant ses vacances de Noël. Allez, dans un instant, une recette montagnarde gourmande avec notre chef Grégory Cohen. Right. Et ce disque plaît beaucoup à notre invité, Étienne Klein, Gabriels, interprété Love and Hate in a Different Time.
Les enfants, prêts pour la marche?
Oui!
Grand bien vous fasse.
1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers.
Allez!
Sur France Inter.
Ce que la montagne raconte de nous, c'est notre thème ce matin avec Étienne Klein et Antoine Debac, avec la complicité de Guillemette Odissino et de Grégory Cohen. Écoutons l'écrivain et alpiniste Gaston Rébuffa en 1980 dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel.
Très jeune, je pense que j'ai eu la lucidité de me rendre compte que la naissance m'avait donné des jambes, des muscles, un corps et une âme, et que tout cela était heureux si ça servait. Non pas si ça dormait, mais si ça servait. Et finalement, d'ailleurs, c'est seulement les gens qui ne marchent pas qui croient que marcher est pénible. Ce sont ceux qui ne grimpent pas qui croient que pour grimper, il faut du courage, ce qui n'est pas vrai du tout. Au contraire, c'est un joli jeu qu'il faut faire avec lucidité, mais qui est propre à l'enthousiasme. Et dès l'instant où on franchit, au fond, une certaine altitude, on se trouve dans un site qui a quelque chose de préhistorique, d'avant les histoires, d'avant l'histoire. Et c'est très prenant, c'est très émouvant en même temps. Et je mesure ma chance, chaque fois que je franchis au fond ce cap, je mesure ma chance d'être là. Et c'est une des raisons pour laquelle j'essaye de faire en sorte que ces lieux restent privilégiés, c'est-à-dire qu'ils restent tels quels.
Antoine Debac, commentaire sur ces propos de Gaston Rébuffa.
C'est très beau sur... cette manière de mettre en marche comme ça la mécanique du corps, c'est un corps, ça c'est fait pour servir. Et ce qui est beau aussi dans ce que dit Rébuffa, c'est l'idée de que ce corps, il va se retrouver au début du monde, quoi, avant l'histoire, et que la montagne, c'est ça aussi, c'est un paysage qui vous donne, c'est souvent d'ailleurs une illusion, hein, le sentiment de retourner avant l'histoire, quoi. Et ça, je pense que c'est ça que veut protéger, c'est l'engagement de Rébuffa, notamment à toute la seconde partie de sa vie pour la préservation du caractère sauvage. Voilà, il y a quelque chose qui aussi est abîmé dans la montagne. Il ne faut pas l'oublier. Cet aspect-là est sans cesse, notamment dans des lieux comme Chamonix. Hein, exactement. Ce sont des lieux qui rognent, qui sont rognés par le présent et par ce que le présent peut avoir de plus agressif. Voilà, le tourisme montagnard est pour moi quelque chose qui me fait très très mal souvent. Hein. Ce sentiment d'être bien dans la montagne, il est souvent aussi agressé par des choses comme ça. La montagne est un milieu très fragile et c'est vrai que c'est un milieu qui n'existe que quand il est, qui existe encore plus fort, quand il est préservé de ça, qu'il est préservé dans sa sauvagerie. Et ça, Rébuffa a été un grand homme de cela.
Étienne Klein.
Oui, c'est toujours émouvant d'entendre la voix de Castor Rébuffa. Ce qui est frappant, c'est la précision de son langage. Il parle fort bien. C'est le cas de tous les alpinistes comme Louis National, Lionel Terray, qui écrivent magnifiquement. Si vous lisez Les Conquérants de l'Inutile de Terray ou bien Les Carnets du Vertige de National, vous verrez que la précision de l'écriture, la beauté de l'écriture est liée à la précision des gestes qu'ils sont capables d'accomplir en montagne.
Antoine Debac, Étienne Klein, je ne sais pas si vous êtes des adeptes de la cuisine de montagne, en tout cas l'un des plaisirs après l'effort, c'est de se sustenter. Grégory Cohen, vous nous proposez ce matin une savoureuse recette des crozets au Beaufort et à la noix de jambon fumé.
Ah oui, une recette pour le coup 100% savoyarde. Pour réaliser cette recette, on aura besoin de 350 g de crozets au sarrasin, 3 oignons, 300 g de noix de jambon fumé coupées en petits dés, 25 cl de crème liquide, 110 g de Beaufort, 75 g de Comté, c'est à peu près la même région, du sel et du poivre. Alors cette recette, elle est simple et rapide à réaliser. On va d'abord plonger les crozets dans une casserole d'eau bouillante sur feu vif, salé évidemment, et on laisse cuire pendant environ 13 minutes. Une fois cuits, on les égoutte, on les passe sous l'eau froide et on les réserve. Ensuite, on pèle et on émince finement ces oignons. On les fait suer dans une sauteuse avec un fond de matière grasse. Alors, on les veut fondants, Ali, hein, pas forcément colorés. Ensuite, on fait fondre les fromages râpés dans une casserole avec la crème liquide. On assaisonne de poivre. Puis, dans cette même casserole, on ajoute les crozets. On laisse cuire 2 à 3 minutes à feu doux en remuant bien. Et puis, quand on dresse son assiette, on dispose les crozets dans le fond de l'assiette. Les oignons, une pincée de sel, on termine en disposant nos noix de jambon, un tour de poivre du moulin, et là, il ne nous restera plus qu'à déguster l'onctuosité de la crème, la mâche des crozets, le fondant des oignons, les dés de jambon qui auront à peine cuit, un bon plat qui tient au corps, à coup sûr, et qui vous revigorera et donnera un avant-goût des escapades à la montagne.
Et je crois que je vais tester cette recette l'été prochain avec mes amis avec lesquels je randonne chaque été dans le Vercors. Merci beaucoup, hein, Grégory Cohen, pour cette belle recette que l'on peut retrouver sur votre compte Instagram, Grégory Cohen off avec 2F. Tiens, pour terminer, pour conclure, pourquoi la montagne, Étienne Klein?
Parce que c'est un espace où le temps oublie l'heure.
Antoine Debac.
Parce que c'est un espace unique où on peut vivre pleinement soi-même et dans un paysage qui vous rend plus grand et plus petit en même temps.
Merci à tous, merci Étienne Klein, Psychisme ascensionnel est publié chez Artaud. Merci Antoine Debac, Ma transhumance est également publié chez Artaud. Demain, en cette semaine de Noël, une émission consacrée aux dons, en compagnie du sociologue Alain Caillé et du psychiatre François Lelore.